Vous écoutez
RMC.
Bon réveil et bon début de dimanche. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, la matinale week-end.
C'est le journal de Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une aide massive et cruciale pour l'Ukraine. 61 milliards de dollars vont être débloqués par les États-Unis. Le port d'un couteau, d'une matraque ou d'un coup de poing américain pourra être puni d'une simple amende forfaitaire. 12 villes expérimentent cette mesure, une mesure qui fait débat. Après l'euphorie de la qualification demi-finale de la Ligue Europa, l'OM, on retrouve cet après-midi la Ligue 1.
Et puis des maths, Vabé, Agur, le breton, le corse, le basque, sans oublier le créole. Est-ce qu'on en fait assez pour le rayonnement de nos langues régionales en France? Le 32-16 est ouvert, c'est à vous de nous dire à 7h10.
Mais d'abord, soulagement pour l'Ukraine. Le Congrès valide un plan d'aide exceptionnel de 61 milliards de dollars.
Mais cela faisait des mois que Kiev attendait ce feu vert. Ce vote du Congrès était bloqué par les Républicains, réticents à l'idée de financer ce conflit qui s'enlise. Finalement, la Chambre des représentants a validé cette enveloppe de 61 milliards de dollars. Ameline Lavechin.
311 voix contre 112, des drapeaux ukrainiens face aux huées des républicains. Pour une enveloppe de presque 61 milliards de dollars, un vote voulu par le président Joe Biden qui mettait la pression sur le Congrès, car l'Ukraine est en position défensive depuis des mois, en manque d'effectifs, mais surtout de munitions. Alors grâce à cette aide, les Ukrainiens vont pouvoir se réarmer face à une Russie qui, sans ça, aurait continué de grignoter du terrain, selon Ulrich Buna, analyste géopolitique.
Ça va leur permettre de combler en partie les brèches qu'ils ont sur leur ligne de front, et ça va leur permettre de tenir la ligne en espérant, entre guillemets, des jours meilleurs, aussi bien en termes de recrutement de nouveaux soldats que de capacité à reprendre l'initiative avec des nouveaux matériels qu'ils seront potentiellement capables de produire eux-mêmes.
Avant de recevoir cette aide, le texte doit d'abord être validé par le Sénat la semaine prochaine, puis terminé sur le bureau de Joe Biden à la Maison-Blanche. La livraison des premiers équipements devrait arriver en Ukraine d'ici 2 à 3 semaines.
Réaction immédiate de Volodymyr Zelensky sur le réseau social X. Cette aide sauvera des milliers de vies. Le chef de l'État, Joe Biden, salue une aide cruciale au rendez-vous de l'histoire. Les ambassadeurs des pays ayant voté pour un État palestinien à l'ONU, convoqué aujourd'hui par Israël, la France, le Japon ou encore l'Équateur sont concernés. Pour Israël, reconnaître un État israélien 6 mois après l'attaque du 7 octobre est une prime au terrorisme. Cette proposition algérienne a été rejetée. C'est dans ce contexte que Sébastien Lecornu tente de rassurer les Français. Le ministre des Armées affirme ce matin dans un entretien aux Parisiens aujourd'hui en France que Paris fait tout pour éviter l'escalade depuis le mois d'octobre et appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Il affirme également que la France ne vend aucune arme à Israël. Et il clarifie également la position française sur l'Iran. La France n'est pas en guerre contre Téhéran.
RMC 7h03. Écoutez bien, vous portez une arme blanche en France dans la rue, et bien désormais ce sera plus qu'une simple contravention.
Cette expérimentation a débuté dans 12 villes, notamment Marseille, Lille, Bobigny et Nantes. Elle permet de sanctionner d'une amende forfaitaire de 500 euros le port d'une arme telle qu'un poignard, une matraque ou encore une bombe lacrymogène. Alors qu'aujourd'hui, elle est punissable d'1 an de prison et de 15 000 euros d'amende. Cette expérimentation inquiète alors que les agressions à l'arme blanche se multiplient en France. Pour Éric Henry, délégué national Alliance Police Nationale, c'est une mesure laxiste.
C'est clairement un très mauvais signal qui est envoyé. Quand on voit l'augmentation des actes de délinquance et de criminalité dans notre pays, ça a quand même du sens de maintenir un cadre juridique permettant d'être efficace dans la lutte contre la sécurité et la protection de nos concitoyens. Là, l'individu paierait cette amende et ensuite, il serait laissé libre. C'est un choc d'autorité qu'il faut, pas un laxisme.
Autre son de cloche pour Loïc Valder, délégué national UNSA Police. Cette mesure va permettre de simplifier les procédures.
Ce serait plus rapide parce que, par exemple, vous n'avez pas à interpeller la personne, vous n'avez pas à la ramener au commissariat. Vous pouvez simplement saisir l'arme de catégorie D en question et pouvoir procéder en fait à une procédure simplifiée avec une amende et vous garder en fait les effectifs sur le terrain. Ça peut également décharger du travail au niveau des enquêteurs. En tout cas, je pense que c'est à tester.
À noter qu'en cas d'amende, l'arme est saisie et détruite. Un premier bilan de cette expérimentation est prévu le 17 juin prochain. Le procureur de la République de Cahors, jugé en juin pour violence conjugale, Alexandre Rossi, avait été placé en garde à vue en début de semaine à Montauban. Son épouse, avec qui il est en train de se séparer, a porté plainte. Les violences sont apparues dans ce contexte de séparation. Cet homme d'une quarantaine d'années est soumis à une obligation de soins et placé sous contrôle judiciaire.
Le foot, après son exploit en quart de finale de Ligue Europa, l'OM retrouve la Ligue 1.
Et basculer sur la Ligue 1, ce n'est pas si évident pour l'Olympique de Marseille qui a un effectif amoindri, Florent Germain.
Et le chef doublement étoilé Nicolas Mas le confirme, la France.
Oui, la qualification de l'OM en demi-finale de Ligue Europa a fait basculer Marseille vers un dilemme inattendu. Faut-il désormais tout miser sur l'Europe, quitte à négliger un peu le championnat ? Marseille, 9e de Ligue 1, a beaucoup de blessés, de suspendus, mais l'entraîneur Jean-Louis Gasset estime qu'il n'y a aucun choix à faire.
Ici, on n'a pas le droit de choisir. On a 3 matchs dans la semaine pour prendre le maximum de points et pour finir le plus haut possible.
L'OM a d'ailleurs des joueurs comme Pap Gueye, Jean Onana ou Ulysse Garcia non qualifiés en Europe et qui vont être utilisés en Ligue 1. Certains blessés et convalescents seront aussi relancés grâce au championnat. Le conseiller sportif Mehdi Benassia promet qu'il faut être à fond dans les deux compétitions.
Quand t'es à l'Olympique de Marseille, tu peux pas faire de compromis. Aujourd'hui, même si les joueurs ils sont comptés, hein, je te dis la vérité, j'ai regardé encore tout à l'heure la salle de son. Hein. Cette saison, pour le coup, on n'a pas été chanceux avec tout ça. Mais à Marseille, tu peux pas faire de compromis, tu peux pas dire je fais l'impasse sur le championnat.
Toulouse ce soir, puis Nice et Lens au Vélodrome. Marseille a 3 matchs pour se relancer en Ligue 1 avant de penser vraiment à l'Europe.
À noter que Jonathan Clauss est proche de faire son retour. Le staff pourrait décider de l'aligner uniquement à partir de la semaine prochaine. Toulouse OM, c'est à 19h à suivre sur RMC.
Et l'une des affiches de cette 30e journée de Ligue 1 se joue ce soir à 21h.
L'OL se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y affronter le leader parisien. En grande forme depuis la phase retour, Lyon a de l'ambition face aux demi-finalistes de la Ligue des Champions.
Ils sont inscrits positivement dans 3 compétitions aujourd'hui. Et vu que c'est un club ambitieux, ils sont sur leur tableau de marche, j'imagine. Pour nous, de toute façon, on sait qu'on va jouer un adversaire de très haut niveau. Ils ont prouvé cette semaine qu'en plus, c'est un adversaire de très haut niveau sur la scène européenne. Donc le challenge va être élevé, mais notre ambition l'est aussi.
Coup d'envoi de ce PSG Lyon, c'est à 21h.
Et puis une autre affiche également à 17h05, le deuxième Brest recevra le troisième Monaco. Victoire hier soir de Lens 1-0 face à Clermont. Le derby breton entre Nantes et Rennes a tourné à l'avantage du Stade Rennais. Victoire 3-0, classement. Les Lensois sont 6e ce matin et comptent 4 points d'avance sur Rennes 7e. Et puis la gastronomie en France. La France doit montrer le meilleur visage de sa gastronomie pendant les JO. Emmanuel Macron a précisé sa volonté de mettre en avant la cuisine française pendant les Jeux de Paris. Et Bercy a lancé un plan de soutien pour la haute gastronomie. Une occasion de faire réunir la gastronomie française. Pierre Bourgès qui a pris quelque peu la poussière selon les grands chefs.
Et le chef doublement étoilé, Nicolas Masse, le confirme, la France a pris du retard.
La gastronomie japonaise, chinoise, italienne, espagnole, enfin bon, mais c'est vrai qu'elle a pris pas mal de place. Il faut qu'on revienne à l'image mondiale, les numéro 1, et je pense pas que ce soit le cas actuellement.
Même dans les grands concours de cuisine internationaux, la France est à la traîne.
Je pense qu'il y a des pays qui étaient mieux outillés que nous actuellement, sur par exemple le Bocuse d'Or. La France entraîne dans un mode artisanal, quand certains pays avaient des grosses écuries qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant.
Le ministère du Tourisme vient d'annoncer un plan de soutien à la haute gastronomie avec des événements culinaires organisés en région pour tenter de faire rayonner la cuisine française pendant les JO. Une excellente idée pour le chef d'un restaurant 2 étoiles à Arcachon, Stéphane Carade.
Il y a beaucoup de touristes qui vont arriver, beaucoup de passionnés de sport et passionnés de gastronomie. Et on est là pour les recevoir aussi, alors qu'il y a des choses qui sont mises en place. C'est super. Il faut que toutes les régions, bien sûr, soient mises à l'honneur.
Budget de cette opération séduction avant les JO, près €1 million, largement insuffisant pour certains professionnels du secteur.
Pierre Bourgès, notre correspondant en Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux pour RMC. C'était le journal de Clément Gouitz. Merci beaucoup Clément. On se retrouve tout à l'heure.
Tout à l'heure, oui.
À 8h. Bah oui, bien sûr, évidemment. Et nous sommes ensemble jusqu'à 9h30. Soyez les bienvenus sur RMC 7h08.
À suivre dans la matinale week-end.
Tiens, on va vous parler d'un nouveau droit. Écoutez bien parce que ça vous concerne si vous êtes salarié. Nouveau droit pour les salariés, le CETU, le compte épargne-temps universel qui vous permettra bientôt de conserver vos congés payés d'une entreprise à l'autre si vous changez de job. Isabelle Mercier de la CFDT est avec nous à 7h40 pour tout nous expliquer.
À 7h20, c'est déjà demain avec vous Anthony Morel. On sort les truelles et les pinceaux ce matin.
Ouais, on va faire de la construction, on va transformer votre maison, écoutez bien, en batterie électrique.
À tout à l'heure Anthony. D'abord notre question ce matin, est-ce qu'on en fait assez pour le rayonnement, pour l'enseignement de nos langues régionales en France? Vous pratiquez ces langues, n'hésitez pas, venez les mettre à l'honneur au 32-16. C'est à vous de nous dire dans 2 minutes.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault.
Bon réveil à vous. Est-ce que je m'aventure à dire Dermat,
Non, laissez ça pour les auditeurs.
Bon, d'accord, très bien. Il est 7h12.
RMC.
À vous de nous dire.
Bonjour Louis Gerbier.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Tous les matins, on pose une question d'actualité. C'est à vous de nous dire. Donc, vous composez le 32-16 et vous témoignez, vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce qu'on en fait assez pour le rayonnement des langues régionales?
Et ben pour répondre à cette question, je vous emmène faire un tour de France Express. C'est parce que les richesses de notre pays sont multiples, son histoire, sa gastronomie, ses paysages, mais aussi ses langues régionales, que sur le site du ministère de la Culture, elles sont définies de la sorte. Les langues traditionnelles parlées sur une petite partie du territoire de la République française, et dont l'usage est souvent antérieur à celui du français, elles sont très nombreuses, surtout dans les territoires d'outre-mer, et leur appartenance au patrimoine français est inscrite depuis 2008 dans la Constitution. Et bien que l'article 2 de cette même constitution énonce que la langue de la République est le français, eh bien il est possible de suivre un cursus scolaire en langue régionale. Tiens d'ailleurs, autour de la table, petit quiz, quelles sont pour vous les langues régionales proposées au collège?
Proposées au collège?
Oui.
Breton?
Évidemment.
Basque?
Eh oui.
Corse?
Eh oui. Ça c'était les trois faciles, maintenant
créole.
J'en veux un. Bien joué, créole.
Occitan?
Oui.
Oh bah c'est bon, vous savez.
Oh
bah
dis
tout.
Donc.
Bah, y en a sûrement plein d'autres. Ah bah on avait Emmanuel tout à l'heure qui nous disait alsacien.
Et oui, l'alsacien. Donc les langues régionales d'Alsace, le pays mosellan aussi, le gallo, ou aussi tout ce qui est le tahitien, le wallisien et futunien. C'est beaucoup dans les outre-mer finalement.
Et ensuite c'est l'histoire d'une marche arrière.
Pas tout à fait tout de suite. Mais...
Pourquoi il y a eu une levée de bouclier des associations de défense des langues régionales?
Eh ben, c'est parce que ces langues régionales étaient menacées de disparaître lors de l'épreuve du brevet des collèges. Je vous explique. En effet, lorsque vous êtes en cursus langue régionale, vous avez un enseignement de langue et de culture régionale de 3 heures minimum, ainsi que l'enseignement de une ou plusieurs disciplines dans cette langue. Ensuite, et surtout le point qui nous intéresse aujourd'hui, lors du diplôme national du brevet, les élèves peuvent choisir de composer une partie des épreuves dans cette langue régionale. Sauf qu'en novembre dernier, la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire avait envoyé une note au rectorat indiquant que, quelle que soit la langue de composition, les sujets ne sont plus traduits en langue régionale et demeurent en français désormais. Donc si vous avez potassé tous vos programmes d'histoire en breton, vous aurez quand même votre examen en français. Donc évidemment, tollé dans les réseaux d'enseignement en langue régionale, plus qu'une atteinte au patrimoine, il parle surtout d'une discrimination des élèves qui serait pénalisée à l'examen. La pression est mise sur le ministère de l'Éducation.
Et c'est là que vient la marche arrière.
Exactement. Si je savais donner mes fiches à Peggy dans le bon ordre, ce vendredi 19 avril, le ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a fait volte-face dans un courrier où elle affirme, je cite, « reconduire pour cette session 2024 la traduction des sujets en langue vivante régionale afin de maintenir une stabilité du cadre d'évaluation du brevet ». Cependant, la ministre de l'Éducation tempère en précisant qu'une concertation aura lieu sur les langues régionales pour le brevet suivant, l'année 2025. L'avenir est donc en suspens.
Alors Louis, en fait-on assez pour le rayonnement des langues régionales?
Eh bien, nos chers auditeurs répondent non à 67%. Et vous, Mathieu, à 8h10, vous recevrez le président de la fédération Ikastola Seaska pour en parler.
Et oui, les écoles basques seront à l'honneur tout à l'heure. Votre langue régionale à l'honneur dès maintenant au 32-16. Vous continuez de voter non à 67% pour le moment sur Twitter. Guylaine ou Ghislaine est avec nous depuis l'Ardèche. Bonjour.
Bonjour. Oui, bonjour.
On dit Ghislaine?
Oui.
Bon, très bien, Ghislaine. Vous, si j'ai bien compris, vous n'avez rien contre les langues régionales, mais vous dites à l'école, c'est le français.
Ben oui, parce que je ne conçois pas qu'on passe des examens, encore le brevet aujourd'hui, vu la valeur qu'il a. Ça, c'est pas un problème, mais les examens, ils doivent être passés en français. Et c'est un problème que j'ai connu dans la... Ben, d'abord, d'une part, moi, les langues régionales, ça ne me branche pas, dans le sens où mon papa était dans la marine militaire, la marine nationale, et que j'ai beaucoup bougé. Donc, on reproche beaucoup aux Français de ne pas être mobile. Alors, si on commence à apprendre une langue et qu'on déménage, c'est un coup d'épée dans l'eau, ça sert à rien. Je pense que ça peut être fait autrement.
De quelle manière ?
Eh ben, c'est des cours un peu particuliers. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir combien d'élèves il y a dans ces cours, parce que vu les problèmes de l'éducation nationale, je ne suis pas sûre que les classes soient remplies et qu'il y ait suffisamment d'enseignants dans ces langues étrangères.
Mais vous ne pensez pas que c'est une richesse, pardon ?
Une richesse, non. Non, parce que déjà, quand on voit le niveau de français des jeunes, génération collège et lycée, la priorité, c'est quand même le français.
Question de priorité, vous avez raison. Tiens, je vous réponds, combien d'élèves dans ces écoles? Bah, par exemple, pour les écoles Diwan en Bretagne, il y a 47 écoles, 6 collèges, 2 lycées, c'est sous contrat avec l'éducation nationale, c'est un peu plus de 4000 élèves. Pareil, un peu plus de 4000 élèves dans la région, dans le Pays Basque, 37 établissements, dont un lycée et 4 collèges. Bah, justement, Bayonne est là. Bonjour Morgane.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Les Pyrénées-Atlantiques. Alors peut-être pareil, Morgane ou Morgan?
Morgane.
Morgane.
C'est breton, mais je suis un peu plus bas.
Et on va s'y perdre avec vous, papa, Morgane. Vous parlez le basque ou le breton, du coup?
Non, je suis d'origine bretonne, mais je n'ai pas dit aucun lien avec la Bretagne. Moi, c'est plutôt le Pays Basque. Mm-hmm. J'ai commencé à l'étudier, notamment... Donc pour contrer un peu les arguments de la personne avant, le basque, l'euskera, on dit, c'est une langue qui est plus ancienne que le français, ça a des origines paléolithiques, oui. Et mis à part ça, d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui l'apprennent, notamment des adultes. Moi, j'ai fait partie, j'ai dû arrêter parce que j'ai eu un enfant et que c'est compliqué d'enchaîner tout ça, mais j'ai fait des cours du soir l'année dernière pendant un an. Oui. Ça représentait 5 heures par semaine et on va savoir qu'on est des milliers comme ça à faire ça au Pays Basque.
Oui. Et qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ces cours?
Eh bien justement, c'est de pouvoir perpétuer les traditions et la culture basque dont on n'a pas envie qu'elle s'efface au détriment d'une culture comme on peut voir partout.
Uniformisée, Morgane. Voilà, mais tout ça, comme disait Ghislaine, pas forcément au détriment du français, parce que Ghislaine, en fait, elle a peur de ça. Elle se dit, c'est priorité au français pour les enfants à l'école.
Oui, mais à savoir que c'est... La façon de vivre, elle est différente. Si on vit vraiment au Pays Basque, je pense que c'est pareil encore, j'ai jamais été. Il n'y a pas de problème d'intégration ou autre en parlant basque. Et c'est encore mieux.
Votre fils, vous envisagez de le mettre dans une école basque?
Bien sûr. Parce que déjà, l'éducation, il est pour moi meilleur que dans l'éducation publique.
Pourquoi?
Mais déjà, moi, j'étais un élève pas difficile, mais j'étais un élève qui aimait pas l'école. Et en école publique, on voulait se débarrasser de moi, clairement. Oui, CAP mécanique, ça sera très bien, il est très manuel. J'ai jamais touché un tournevis de ma vie. Enfin, ça approfondit pas le problème. Il y a trop d'élèves, trop de brassage. Ils peuvent pas. Et encore, moi, je suis dans une région hyper facile où le taux de délinquance est bas, où les profs prennent encore le temps, un minimum. Donc, j'imagine pas dans les régions un peu défavorisées.
Effectivement. Merci beaucoup de vos deux témoignages, Ghislaine, Morgane, ce matin, parce qu'on a tous les arguments là pour nourrir le débat jusqu'à 9h30. Vous poursuivez avec vos appels au 32-16. Morgane, comment on dit au revoir en basque?
Ça dépend à quel moment de la journée.
Bah là, pour dire salut, bonne matinée.
Sinon, on peut dire adio.
Eh ben, adieu
et coucharté.
Eh ben coucharté, Morgane. Et merci d'être passé sur
RMC.
À bientôt. Vous poursuivez et vous mettez à l'honneur votre langue régionale ce matin. Il est 7h20.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
7h21, vous êtes sur RMC. On va pas bouder notre plaisir. Depuis hier, on vous offre les vinyles de la discothèque d'RMC à l'occasion du Disquaire Day. On vous a passé ce titre juste avant le journal de 7h. Le principe du jeu est simple. Vous reconnaissez l'artiste. Si vous l'avez, allez-y, appelez le 3216, gagnant ou gagnante, avant 7h30.
Mais d'abord,
RMC.
C'est déjà demain.
L'actualité des nouvelles technologies, c'est tous les jours sur RMC avec Anthony Morel.
Bonjour Anthony.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Les bâtiments à énergie positive, on les connaît peu. Ce sont les maisons, des immeubles qui produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment, quoi, globalement.
C'est ça.
Encore rare, mais pour des raisons économiques et écologiques, c'est un peu le Graal en ce moment dans le monde du bâtiment. Il y a plein d'innovations d'ailleurs dans ce domaine.
Oui, et qui vont nous permettre de faire baisser la facture d'électricité de manière significative. Imaginez par exemple un béton capable de transformer votre maison en batterie électrique géante. Autrement dit, les murs et les fondations de votre logement seraient capables de stocker de l'énergie, c'est le produit
dans le ciment.
Exactement. Et alors on va récupérer en fait l'énergie qui est produite par les panneaux solaires qui se situent sur le toit par exemple et de l'utiliser quand on en a besoin, c'est-à-dire quand il y a plus de soleil typiquement. C'est une avancée assez dingue qui vient des États-Unis du MIT, prestigieuse université, un super béton qui incorpore du ciment et du noir de carbone qui est un matériau très conducteur et avec d'autres éléments, ça permet d'obtenir ce qu'on appelle un super condensateur, c'est-à-dire un béton qui permet de stocker et de libérer de l'énergie de manière beaucoup plus efficace que les batteries classiques. Selon leurs estimations, les fondations d'une maison permettraient de stocker suffisamment d'énergie pour alimenter un foyer moyen pendant une journée, ce qui permettrait de répondre à l'une des principales critiques qu'on fait aux énergies renouvelables comme le solaire, c'est le fait qu'elles sont non pilotables. On pourrait aussi revendre le surplus d'énergie produite. Alors pour l'instant, ça fonctionne en laboratoire. Il va falloir voir ce que ça donne en phase industrielle, mais on va dire que c'est une piste quand même assez prometteuse.
Stocker l'énergie, c'est bien Anthony, mais encore faut-il la produire. Alors les panneaux solaires sont souvent critiqués. Est-ce qu'ils sont désormais plus efficaces ?
Absolument, il y a beaucoup d'innovations très intéressantes dans ce domaine. Exemple concret, ce sont les vitrages photovoltaïques, autrement dit des panneaux solaires qu'on va incorporer carrément dans une fenêtre. Faut imaginer un immeuble ou un gratte-ciel dont l'ensemble de la surface capterait l'énergie du soleil
et la transforme. On met un filtre sur la fenêtre.
En fait, il y a même pas besoin de filtre, c'est-à-dire qu'on va maintenant avoir des cellules photovoltaïques qui sont carrément transparentes et qu'on peut intégrer à l'intérieur d'une vitre et ça ne se voit absolument pas. Alors ça coûte plus cher, c'est compliqué à mettre en place, tout ça est encore un petit peu en phase de prototype et de test dans les laboratoires, mais là aussi ça va être extrêmement intéressant dans les années qui viennent.
Bon, ce que tout le monde veut chez soi, c'est de limiter la facture, donc la consommation électrique. Il y a des matériaux qui évoluent.
Oui, et notamment des peintures extérieures réflectives, ultra blanches, qui vont repousser les rayons du soleil en été et faire baisser la température à l'intérieur. Mais il y a aussi des peintures d'intérieur qui vont vous faire économiser du chauffage. C'est une PME basée dans les Côtes d'Armor qui a mis au point ce dispositif assez génial. Un matériau à changement de phase, c'est-à-dire que dès que la température dans la pièce dépasse les 23 degrés, eh bien ce revêtement, cette peinture va stocker, emprisonner la chaleur et la restituer progressivement au moment où la température commence à baisser. Donc le soir en fait, ça fonctionne l'été, ça fonctionne l'hiver également, ça coûte un petit peu plus cher que de la peinture traditionnelle, mais l'investissement s'amortit rapidement puisque ça permettrait selon ses créateurs d'économiser 10 à 15% sur sa facture d'électricité par an, c'est pas mal.
Merci Anthony, c'est déjà demain, retrouve un podcast sur l'appli RMC.
7h25, les amis. C'est le grand moment. Je peux vous dire que vous êtes très nombreux à avoir reconnu. Grâce à qui ?
Non, c'était facile. Ouais. Il n'y avait pas besoin d'indices. J'en ai donné plein, mais il n'y avait pas besoin d'indices.
Ah oui, vous n'aviez pas
besoin. En deux lettres.
En deux lettres ?
Enfin.
Ouais.
Oui.
Corrigez-vous.
Une lettre, un chiffre.
Ah, bravo.
Pardon.
U2, les
mais
amis.
Oui.
Mais bien sûr, c'est U2 qu'on vous fait gagner ce matin dans notre foire au vinyle RMC. Tiens, un petit deuxième, là.
Sunday, Bloody Sunday.
Je peux vous dire que Stéphane avait la bonne réponse, Nasser aussi, Sébastien aussi, Tess aussi. Bravo les amis, sauf que vous n'avez pas été les premiers, j'en suis désolé, à nous contacter via le 3216 ou sur l'appli RMC pour nous donner votre bonne réponse. La grande gagnante est Mylène. C'est chez Mylène que nos deux 33 tours de U2, parce qu'il y en avait deux en plus là,
vont partir.
Bravo à vous ma chère Mylène, merci d'avoir joué avec nous. Vous aussi, ça vous tente cette grande foire au vinyle, je le sais, hein, depuis hier, il y a un grand...
Il y en a plein d'autres.
On en a encore pas mal,
il faut dire
que j'en avais volé pas mal dans la cave. Alors, qu'est-ce qu'on va remettre en jeu? Un autre artiste, allons-y, écoutons le prochain.
J'allais dire son prénom, excusez-moi.
Est-ce que c'est d'ailleurs encore donné son prénom, vous croyez, aujourd'hui?
Oh, je suis pas certaine. Hein.
Au bébé qui naît.
Aujourd'hui, je suis pas certaine.
C'est vrai que là, on est aux années. On n'a même pas donné d'un chiffre. Bon, bref.
Un ancien prénom,
pour le plaisir. C'est peut-être son plus grand tube, non?
Oui, un de ses plus grands
tubes. Mais il y en a eu d'autres.
Il y en a eu plein d'autres.
Vous l'avez cet artiste? Eh bien, même punition, le 32-16, l'appli RMC, si vous êtes le premier, vous gagnez le vinyle. Rendez-vous juste après les infos de 7h30, les amis, à tout de suite. Dans le ciel de ce dimanche, Peggy, même temps qu'hier.
Oui, globalement, sur le nord-est, on a un temps plus nuageux avec quelques averses ici ou là, de la neige en montagne et puis du vent également sur un large quart nord-est et dans l'après-midi. C'est vraiment sur le flanc est que les averses seront plus marquées, orageuses également sur le nord-est et près de la Côte d'Azur. Et puis quelques averses éparses vont gagner l'Île-de-France, le centre et la Normandie. Mais sur l'ouest du pays, entre la Bretagne, la Normandie, l'Aquitaine et un tiers sud, donc la région PACA, là, on a du soleil avec beaucoup de vent, beaucoup de mistral et de tramontane. Et notez que les températures sont particulièrement froides. On a déjà quelques gelées sur la Normandie, le centre et également les plaines du sud-ouest et dans l'est du pays. Et cet après-midi, les températures seront 4 à 5 degrés sous les normales de saison. 9 à Mulhouse, 10 à Metz, 11 degrés à Cherbourg et Lyon, 12 à Orléans, 13 à Paris, 14 à Brest, 15 à La Rochelle, 16 à Bordeaux. Dans le sud, il fait plus doux. 17 à Agen, 18 à Toulouse, 19 à Montpellier, jusqu'à 21 à Perpignan.
Votre rendez-vous sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr.
Bon réveil, bon dimanche. Nous sommes le 21 avril 2024.
Vous écoutez RMC, il est 7h30.
RMC, la matinale week-end.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Clara Gabillet, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une nouvelle agression à Grande-Synthe dans le Nord. Un ado de 15 ans roué de coups, sa mère témoigne ce matin. 61 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, une enveloppe colossale votée par les États-Unis. Et puis une victoire renversante des féminines de l'OL face au PSG hier soir. Victoire 3-2 des Lyonnaises à domicile.
D'abord, que se passe-t-il à Grande-Synthe dans le Nord? Une nouvelle agression a donc eu lieu 5 jours après le meurtre de Philippe, ce jeune homme de 22 ans tabassé à mort.
Cette fois-ci, il s'agit d'un ado de 15 ans agressé, retrouvé à moitié nu par un passant dans la nuit de vendredi à samedi. Cette nouvelle victime, c'est le cousin de l'un des suspects mis en examen dans l'assassinat de Philippe. Il n'est pas encore possible de conclure de façon fiable sur le mobile des agresseurs, selon le parquet. Cet ado a en tout cas été roué de coups par plusieurs personnes. Sa mère l'a retrouvée ensuite, elle est sous le choc.
Il est gonflé de partout. Il a la bouche qui est double volume. Il a des oreilles de boxeur. Il a des côtes cassées. Donc il souffre beaucoup parce que quand il respire, il a super mal. Il a du sang dans les yeux. Les yeux sont bleus. Il a des coups partout, partout. Et le plus, c'est la mâchoire. En ce moment, j'ai beaucoup de vagues de menaces envers que ce soit mes enfants, même ma fille. Jusqu'à dire je vais aller violer ta fille alors qu'elle a que 12 ans. Moi, je vais plus travailler à cause de ça. J'ai envoyé un message au maire pour déménager parce que je suis plus en sécurité.
Un procureur bientôt jugé, le procureur de Cahors, Alexandre Rossi, sera jugé en juin pour violence conjugale après une plainte de son épouse. Il est toujours en poste actuellement. Le ministère de la Justice indique qu'une décision sera prise rapidement sur le plan disciplinaire.
7h32 sur RMC, une aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine.
Enveloppe votée hier aux États-Unis par la Chambre des représentants. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, se dit reconnaissant. Il parle d'une aide vitale car Kiev manque de soldats et de munitions. Cet argent va donc aider l'Ukraine à tenir sa ligne de défense, selon Ulrich Bouna, expert en géopolitique.
Il faut bien comprendre qu'actuellement, l'Ukraine, sur la ligne de front, a deux problèmes. Elle a un problème d'effectifs, qui est un problème interne à l'Ukraine, et elle a un problème de manque de munitions, notamment d'artillerie et de munitions antiaériennes pour protéger ses villes. Et donc, effectivement, ce package de 61 milliards de dollars, il va permettre de fournir assez rapidement aux Ukrainiens, notamment ces deux matériels, donc l'artillerie et la défense antiaérienne qui vont leur permettre de se protéger contre les offensives russes. Donc c'est vraiment fondamental pour eux.
Les États-Unis qui ont également voté une aide de 13 milliards de dollars pour Israël afin notamment de renforcer son bouclier antimissile, le Dôme de fer, une aide à Israël qui défend la civilisation occidentale selon Benjamin Netanyahou quand la présidence palestinienne parle d'agression. Ce matin, dans Le Parisien, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, réagit à la situation au Moyen-Orient. Bonjour Margot Bult.
Bonjour Clara.
Le ministre qui détaille l'action concrète de la France dans la région.
Oui, en revenant notamment sur la décision française il y a une semaine d'intervenir en Israël pour intercepter l'attaque de drones iraniens. Une décision critiquée depuis par des députés insoumis, mais qui était indispensable, d'après le ministre des Armées, pour défendre nos bases militaires présentes dans la région. En revanche, Sébastien Lecornu l'affirme, la France ne vend aucune arme à Israël, seulement des pièces détachées, notamment pour alimenter la bulle de défense aérienne de l'État hébreu, comme vous l'avez dit. Vis-à-vis de l'Iran, le ministre clarifie la position française. Nous ne sommes pas en guerre contre Téhéran, dit-il. En revanche, en ayant encore des otages français sur son sol et en continuant de développer son programme nucléaire, l'Iran menace non seulement la sécurité de la région, mais aussi la nôtre en Europe. En résumé, l'activité militaire française a principalement pour but en ce moment de maîtriser l'escalade dans la région, conclut le ministre.
Explication signée Margot Boult pour RMC. Une nouvelle manifestation contre l'A69 aujourd'hui à Toulouse, contre cette autoroute qui doit relier Toulouse et Castres. La préfecture craint des débordements et autorise donc l'utilisation de drones.
Le foot sur RMC avec la Ligue 1 et la victoire de Rennes 3-0 face à Nantes.
De son côté, Lens a battu le dernier, Clermont 1-0. La suite de cette 30e journée de Ligue 1 à 13h, Reims-Montpellier. À 15h, Lille reçoit Strasbourg et Le Havre reçoit Metz. Brest-Monaco, c'est à 17h. Toulouse-Marseille à 19h. Et en clôture, PSG-OL à 21h avec, côté parisien, un joueur au potentiel de très haut niveau, selon son entraîneur Luis Enrique, Bradley Barcola, joueur qui impressionne cette saison, Arthur Perrault.
Oui, face à Barcelone en Coupe d'Europe, Bradley Barcola a encore livré une prestation de classe. Pas de quoi surprendre Pierre Sage, son ancien entraîneur à Lyon.
Je suis pas vraiment bluffé parce que même lorsqu'il joue en réserve ici, il y a beaucoup de choses que j'appréciais chez lui dans sa manière de se positionner dans les espaces. Déjà, il faisait preuve d'une forme d'intelligence dans la manière d'organiser son jeu par rapport à ce que faisaient ses partenaires.
Arrivé de Lyon l'été dernier, contre 45 millions d'euros, le joueur s'est totalement adapté à son nouveau club. 3 buts, 6 passes décisives, dont une pour Ousmane Dembélé face à Barcelone. Certains lui prédisaient une saison galère avec peu de temps de jeu. Lui a toujours été sûr de ses forces.
Je sais que j'ai fait un très bon choix de venir ici. J'ai pas eu de doute sur mon choix. Donc je suis vraiment très content. Je suis très fier d'être parisien aujourd'hui.
L'attaquant est devenu le chouchou de Luis Enrique, mais le coach parisien n'en reste pas moins exigeant.
Après le match de Newcastle, il avait reçu des critiques. Il n'y avait rien de plus injuste. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il enchaîne des matchs de haut niveau qu'il faut en dire que du positif. Barcola s'entraîne très bien. Le travail porte juste ses fruits.
Bradley Barcola monte en puissance avec l'équipe de France en ligne de mire. Le Parisien, suivi de près par Didier Deschamps, pourrait bien disputer l'Euro en juin prochain.
Une victoire sur le fil des Lyonnaises hier. D'abord menée de 2 buts, l'OL s'est imposée en toute fin de match, 3-2 face au PSG en demi-finale allée de la Ligue des Champions féminines. Un nouveau match de folie au Groupama. Il aura fallu 6 minutes aux joueuses de l'Olympique Lyonnais pour renverser la situation, Edouard Jay.
Oui, 6 minutes de feu avec des buts magnifiques, pleins de rage et d'envie de Lyonnaises au bord du précipice qui n'ont dans ce final haletant qu'une envie, sortir les griffes. Amel Majri l'illustre avec son but vainqueur à la 86e minute.
On n'a rien lâché et je suis fier parce que voilà, on a montré un beau visage de l'OL et de ce qu'on est capable de faire.
À l'expérience aussi de ces 8 titres européens, donc pour l'OL, sans oublier un autre atout dans la manche pour les coéquipières de Melchie Dumornay, autre buteuse du soir.
Franchement, moi j'étais fatigué. Le deuxième but, ça a reboosté tout le monde pour aller chercher cette victoire. Donc on remercie fortement le public qui était derrière nous, très fort.
Car hier soir, les Lyonnaises n'étaient pas seules sur le terrain, puisqu'encouragées par plus de 38 000 spectateurs, record du stade battu. Sonia Bonpastor, l'entraîneur de l'OL, en mesure la portée.
Quand vous sentez le soutien de 38 000 personnes, ça fait du bruit, ça vous pousse. Et c'est des éléments qui vous permettent à un moment donné de vous sublimer.
De quoi peut-être donner l'envie aux supporters parisiens de mettre la même ambiance dimanche prochain pour le match retour de cette demi-finale.
Le Paris Saint-Germain qui a aussi été battu en handball hier. Défaite de Nicolas Karabatic et ses coéquipiers 31-23 face à Nantes en finale de Coupe de France. Nantes qui est donc sacré champion de France. Hier en top 14, Castres s'est imposé 25-24 face à La Rochelle. Le Stade français a battu Bayonne 28-24 et Toulon l'a emporté d'un petit point face au Stade Toulousain hier 20-19. Ce soir, l'ASM se déplace à Bordeaux. Coup d'envoi 21h05 et vous le vivrez bien sûr sur RMC.
Avec grand plaisir, Clara Gabillet. Tiens, est-ce que vous voulez jouer aussi, vous? Vous avez envie ou pas?
Allez, blind test.
Eh ben allez, est-ce que vous l'avez, ça?
Ah, j'ai honte. Ben non.
Pour le plaisir, c'est de qui?
Elle est jeune. Non, je l'ai pas. Elle est jeune.
Alors,
je connais, mais alors impossible de sortir la.
C'est vrai que c'était peut-être un tout petit peu plus dur dans notre foire au vinyle RMC. Si vous voulez remporter les vinyles RMC, c'est ce week-end ou jamais. Notre discothèque collector Nasser est le premier à avoir reconnu cet artiste. Bonjour Nasser.
Bonjour.
Comment ça va, Nasser?
Ah ben ça va, oui.
Bon, vous nous écoutez depuis tôt parce que je vois vos messages qui passent depuis 6h30. Vous essayez de reconnaître les artistes. Honnêtement, l'abnégation paye, Nasser, parce que là, vous avez été le premier sur cet artiste. Alors, c'est qui?
Herbert Léonard.
Bravo,
Nasser.
Excellent.
Merci beaucoup.
Voilà, une leçon donnée à Clara Gabillet.
Coiffé au poteau, là.
Pour le plaisir, évidemment, c'est Herbert Léonard. Nasser, on vous envoie le 33 tours d'Herbert Léonard de la discothèque RMC. Il date du 25 avril 1988, figurez-vous.
Eh oui, ça ne me rajeunit pas non plus.
Eh ben moi non plus. Hein.
Ça rappelle de bons souvenirs.
C'est pour ça que je l'avais pas. On est très heureux que ça parte chez vous, Nasser. Merci d'avoir joué avec nous. On va poursuivre jusqu'à 9h30. Allez,
merci
avec
à vous.
Salut Nasser. Au nouveau titre.
Chante, mets tes baskets. Chouette, c'est sympa, tu verras. Viens, surtout n'oublie pas.
Vous aussi, vous avez le droit de chanter.
J'allais dire, c'est assez facile aussi celle-là.
Ouais, moi, ça me rappelle mes booms à l'époque.
Eh bien, si vous l'avez, vous connaissez le chemin. Le 32-16, un message sur l'appli RMC avec votre numéro. Le premier ou la première à reconnaître gagnera ce vinyle avant 8h du matin sur RMC. Soyez les bienvenus.
À suivre dans la matinale week-end.
À 7h50, c'est Racontez-nous avec vous, Caroline Philippe. Vous nous reparlez du couple Fillon ce matin.
Oui, avec la décision de la Cour de cassation attendue ce mercredi dans l'affaire Fillon.
À tout à l'heure, Caroline. Avant cela, nous allons parler d'un nouveau droit pour les salariés, le CETU, le compte épargne-temps universel, qui va désormais permettre de conserver ses congés payés d'une entreprise à l'autre, même si vous changez de job. Cet accord entre partenaires sociaux et patronat sera signé mardi. On va avoir tous les détails. Isabelle Mercier de la CFDT nous explique tout dans deux minutes.
RMC, 6h30, 9h30, la matinale week-end. Mathieu Rouault.
Bon réveil avec RMC, 7h42.
RMC. L'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est vous, Isabelle Mercier, secrétaire nationale CFDT et négociatrice pour le dossier du compte épargne temps universel.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Le CETU, ce nouveau droit pour les salariés que vous êtes en train de créer, de finaliser. Ce mardi, plusieurs syndicats, dont le vôtre, et une organisation patronale, l'UDP, vont se réunir pour valider l'accord. C'est quoi ce compte épargne-temps universel ?
Alors le compte épargne-temps universel, c'est un compte épargne-temps qui s'adresse à tous les salariés, qui permettra aux salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son statut, de pouvoir épargner du temps, de pouvoir déposer éventuellement des primes, de l'intéressement, pour pouvoir un jour utiliser ce temps selon ses besoins personnels ou ses besoins d'engagement familial ou d'engagement associatif.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne sera pas plus propre à chaque entreprise. On pourra transférer les congés qu'on a accumulés dessus d'une entreprise à l'autre.
Voilà, c'est tout l'intérêt, c'était toute la volonté de la CFDT de créer quelque chose qui soit rattaché aux salariés et non pas à l'entreprise, contrairement à ce qui existe aujourd'hui avec les comptes épargne dans les grosses entreprises notamment, pour que justement cela réponde à la vie des salariés. Aujourd'hui, les salariés, ils ont envie d'équilibrer leur vie entre le travail et la vie perso de manière différentes tout au long de la carrière. Ils ont aussi un parcours professionnel qui fait qu'ils vont aller dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes, ils vont être en contrat à durée déterminée ou autre. Et c'était important qu'ils puissent mettre sur un compte épargne extérieur du
qui
temps.
Sera donc géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Voilà, exactement, qui sera géré par la Caisse des dépôts et des consignations, donc complètement à l'extérieur de l'entreprise et complètement rattaché au salarié lui-même, et selon un certain nombre de critères, le salarié pourra utiliser ce temps tout au long de sa carrière.
On va revenir sur ces critères, mais donc très concrètement, je suis conducteur, chauffeur routier dans une entreprise, la même depuis, on va dire, 22 ans. J'ai accumulé 72 jours de congé sur ce CETU. La nouvelle entreprise que je vais intégrer, eh bien, j'aurai toujours ces 72 jours.
Exactement, vous
et
aurez
je pourrais
toujours.
Demander à mon nouveau patron, tiens, là, j'ai envie d'en prendre pour telle ou telle raison.
Voilà, vous aurez toujours ces 72 jours. Après, vous pourrez demander à votre patron, sans délai, après une certaine ancienneté quand même, mais sans délai, pour accompagner un parent malade, pour accueillir un enfant. Et puis, on a mis en place un petit délai sur les initiatives autour de l'initiative associative, engagement citoyen, si vous avez envie de vous investir dans une assoce, ou bien si vous avez envie de faire une reconversion professionnelle à votre initiative, vous pourrez aussi prendre des jours. Et pour toute autre raison, on a un troisième critère de délai pour permettre aussi aux entreprises de s'organiser.
Il y aura trois cas, si j'ai bien compris, Isabelle Mercier. Pour motif médical, accompagnement d'un malade ou d'un proche, il faudra prévenir son employeur un mois et demi avant, sans condition d'ancienneté. Le deuxième cas, pour s'engager dans une association, comme vous nous le disiez, là c'est un droit inédit en plus, hein.
Oui.
Un an d'ancienneté dans l'entreprise. Et puis le troisième cas, si on a envie d'utiliser nos jours de congé, ne serait-ce que pour voyager, là il faut 36 mois d'ancienneté pour poser un mois.
Exactement.
C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Vous l'avez donc mise en œuvre. Le seul petit doute que j'ai, Isabelle Mercier, c'est que l'accord que vous allez signer mardi, c'est seulement avec l'UDP, qui est la plus petite des trois organisations patronales. Ça représente les artisans, les commerçants, les professions libérales. Ça veut dire que CPME, MEDEF, ils sont encore réticentes.
Alors oui, alors c'est une promesse d'Emmanuel Macron, c'est surtout un projet de la CFDT depuis maintenant une dizaine d'années, vraiment pour s'adapter aux attentes des salariés qui nous ont fortement exprimé ce besoin de vivre autrement l'année dernière pendant les mobilisations contre la réforme des retraites.
Oui.
Ça c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, le MEDEF et la CPME n'ont pas voulu entrer dans une négociation sur le compte épargne temps universel. L'UDP essaie symboliquement et de manière très inédite et très intéressante à proposer qu'on continue ensemble cette négociation sur ce qu'on appelle le CETU. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre à la fois une connaissance des besoins des employeurs, des petites boîtes et des salariés. Et pour nous, ça répond à une vraie aspiration, à savoir que les salariés, quelle que soit la taille de l'entreprise, et surtout dans les petites boîtes, les TPE, où souvent ils ont moins d'avantages, de pouvoir bénéficier des mêmes avantages que tous les salariés.
Donc, tant pis, j'allais dire, pour CPME MEDEF, votre accord sera signé mardi, sauf énorme rebondissement, mais il sera signé. Ensuite, ça va passer par le projet de loi, gouvernement, Parlement,
voilà,
pour qu'il soit validé à l'automne.
L'idée, c'est effectivement, alors nous, on a une instance qui va finaliser la validation mercredi au niveau de la CFDT, et après, cet accord interprofessionnel va aller au gouvernement, et l'idée, c'est qu'à l'automne, il soit transcrit dans une loi pour le mettre en place de manière et universelle et de manière
et
aussi
profitable à tous les salariés
en étant confidentiel.
Y compris ceux de la CPME et du MEDEF, Isabelle.
Y compris à cela.
J'ajoute, pour être très complet, qu'on pourra donc déposer sur ce CETU uniquement la cinquième semaine de congé payé obligatoire, donc ça veut dire 5 jours par an.
Oui, alors la cinquième journée uniquement, c'est aussi parce que cinquième semaine, on est très attaché à la santé et à la lutte contre l'usure professionnelle, et il nous semble que d'abord les vacances c'est pour se reposer.
Bien sûr, il n'est pas question de poser toutes ces vacances.
Exactement, l'idée n'est pas de travailler.
On pourra y poser quand même les RTT, les heures supplémentaires, des congés conventionnels. Ce qui est très intéressant, c'est que vous nous dites que à la fin de la carrière, on aura peut-être un petit pactole sur ce CETU qui pourra nous permettre de partir à la retraite plus tôt.
Voilà. Ou alors d'aménager son temps de travail sur un temps partiel, par exemple, pour partir en retraite progressive, parce que aujourd'hui on va travailler 2 ans de plus depuis la réforme des retraites. Et l'un des enjeux de cette négociation, c'était aussi de pouvoir aménager autrement les fins de carrière pour permettre que les salariés qui vont travailler plus longtemps soient aussi dans un contexte de travail plus équilibré, plus équilibrant, et qui répondent aussi à leur santé physique.
Et vous avez fait le calcul à la CFDT, si le salarié chaque année une semaine de congé sur ce CETU, ça pourrait lui permettre de partir à la retraite un an avant l'âge de départ légal. C'est une sorte de pied de nez à votre demi-défaite sur la réforme des retraites de l'année dernière.
Alors, je dirais pas que c'est un pied de nez, c'est surtout prendre en compte le fait que le salarié va travailler plus longtemps. Et quand le salarié travaille plus longtemps, il faut travailler avec les organisations patronales à comment on aménage ses fins de carrière, d'une part. Et l'autre élément sur lequel nous, on souhaite travailler fortement, c'est comment on travaille aussi sur les questions d'usure professionnelle, physique et psychologique. Parce que travailler plus longtemps, ça veut dire être maintenu dans l'emploi, et ça veut dire qu'il faut on peut pas perdre sa vie à la gagner. Et que du coup, il y a un vrai enjeu à travailler sur les conditions de travail et l'organisation du travail.
Merci beaucoup Isabelle, merci.
Merci à vous.
Secrétaire nationale CFDT, négociatrice pour ce CETU, compte épargne temps universel, ce nouveau droit pour les salariés qui sera donc finalisé mardi avant une négociation au Parlement à l'automne. Nouveau droit pour les salariés, ça se souligne évidemment sur RMC. Il est 8h10, on se retrouve dans 2 minutes.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
7h51, vous êtes sur RMC. Ah, vous êtes très nombreux à jouer avec nous ce matin pour remporter les vinyles de la discothèque RMC, c'est Collector. Alors attendez les amis, parce que vous jouez pour reconnaître l'artiste, les titres qu'on vous diffuse, ça c'est le principe du jeu, mais vous en profitez aussi pour nous écrire, c'est un peu minable, vos 10 vinyles à gagner, entre Herbert Léonard, le groupe Image, il y a tellement de chanteurs français de grande qualité, etc. C'est un peu rude le matin à 7h30. Les gars, C'est la discothèque RMC, c'est collector. Hein.
Mais oui.
Évidemment, on va pas avoir Rihanna et Taylor Swift en vinyle. Mais vous avez cru quoi?
Attendez.
On a fait gagner un U2 aussi. Il y en a d'autres qui arrivent.
Il y en a pour tous les goûts. Mais c'est vrai que parfois, c'est un peu de poussière sur ces vinyles. Bon, bah voilà. Si vous voulez quand même les gagner, vous continuez. Le 32-16 est ouvert et l'appli RMC, vous nous laissez votre numéro. Un prochain gagnant d'ici 2-3 minutes.
Mais d'abord,
racontez-nous.
C'est l'heure de retrouver Caroline Philippe.
Bonjour Caroline.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy.
La semaine prochaine, mercredi, la Cour de cassation va rendre son arrêt dans l'affaire Fillon. Les époux contestent leur condamnation en appel en 2022 dans l'affaire des emplois fictifs à l'Assemblée nationale.
Oui, cette affaire, Mathieu, qui éclate en 2017 et qui change totalement le cours de la campagne présidentielle. Le 25 janvier, le Canard enchaîné révèle que Pénélope Fillon, l'épouse du candidat de la droite, aurait bénéficié d'un emploi fictif d'assistante parlementaire de son mari à l'Assemblée nationale. L'affaire devient le Pénélope Gate. Le retentissement est dingue. François Fillon maintient sa candidature malgré les critiques et malgré sa mise en examen, mais il ne passera pas le premier tour de la présidentielle.
Et depuis, il a donc été condamné en première instance, en appel. C'est cette décision en appel que ses avocats contestent désormais.
Oui, en 2022, la Cour d'appel de Paris a condamné François Fillon à 4 ans de prison, dont un enferme, 10 ans d'inéligibilité et 375 000 euros d'amende. Sa femme Pénélope a écopé de 2 ans de prison avec sursis, ainsi que 375 000 euros d'amende. Également, les avocats de Pénélope et François Fillon ont plaidé la cassation totale de cet arrêt, au motif que les époux n'auraient pas été traités avec, je cite, « indépendance et partialité par la justice ». François Fillon estime qu'il n'a pas eu le droit à un procès équitable, que la procédure pénale dont il a fait l'objet a été entachée de graves irrégularités. Il soulève notamment des pressions subies par Éliane Houlette. C'est elle qui dirigeait le parquet financier quand l'affaire a éclaté en 2017. Plus tard, en juin 2020, elle racontera devant une commission de l'Assemblée nationale avoir subi une lourde pression et un contrôle étroit de la part de sa hiérarchie pendant l'instruction de l'affaire Fillon. Le jour d'ailleurs où le Canard enchaîné révèle les soupçons d'emploi fictif, elle reçoit une demande du procureur général pour ouvrir une information judiciaire.
Et alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Caroline ?
Deux options mercredi, soit la justice leur donne raison, dans ce cas une nouvelle cour d'appel se réunirait et un nouveau procès, le troisième, se déroulerait. Sinon, eh bien, la condamnation de Pénélope Fillon et François Fillon deviendrait définitive. Leur dernier recours, s'ils le souhaitent, se tourner vers la Cour européenne des droits de l'homme au nom du droit à la justice équitable.
Merci Caroline, racontez-nous, à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
La matinale week-end,
le bonus RMC.
Et comme promis, à 8h05, nous avons un gagnant ou une gagnante, en tout cas quelqu'un qui a reconnu ça. Dans notre foire au vinyle RMC, à l'occasion du Disquaire Day, nous avons shippé quelques vinyles qui devaient être mis aux enchères. Bah oui, parce que je crois que ça se compte en dizaines, voire en centaines de milliers.
Ah oui, mais il y en a énormément.
De la discothèque RMC. Bon, vous imaginez bien que c'était dans des années... Là, il date de quoi, lui ?
90.
20 décembre 90.
Ouais. Voilà. Alors, qui a reconnu
ce titre, plutôt l'artiste ? Eh bien, c'est Christophe. Bonjour Christophe.
Bonjour Christophe.
Bonjour, comment allez-vous ? Je suis trop content de vous parler.
Ah bah, et moi aussi Christophe, parce qu'en plus avec ce jeu, on a plein d'auditeurs qui ne composent jamais le 32-16, qui n'osent pas venir parler sur RMC. C'est votre cas ou pas ?
C'est vrai que j'appelle pas trop le 32-16, je suis plutôt sur Direct Studio. Hier, par exemple, j'ai pris une camomille après l'interview. J'étais trop tendu,
excellent.
Quoi, pour Mathieu, quoi.
C'est vrai que
ça s'est quand même mieux passé ce matin.
Voilà. Pour le moment, Christophe.
C'est pas fini.
Ah, il y a des moments un peu chauds.
J'étais tendu, je me suis dit, mais Mathieu, j'ai envoyé un message de soutien à Mathieu.
Ah, c'est gentil, Christophe.
Mathieu reste toujours zen.
Il a pas besoin d'être soutenu, je l'ai dit, mais bon.
J'essaye de rester calme, Christophe, en toutes circonstances, bien sûr. Alors, la musique m'aide, d'ailleurs. Alors. Christophe, qui est-ce qu'on entend ? Quel groupe ?
J'ai reconnu les Forbans.
Eh oui !
Eh bravo, Christophe !
Vous aussi, vous avez fait des booms avec les Forbans ?
Bah, c'est le jeunesse, hein.
Mais oui,
allez. Donc, franchement...
Juste quelques secondes pour le plaisir, là. On s'éclate en dansant le flipper.
C'est un temps qui va bien.
Et vous avez le droit de chanter, bien sûr. Deux pour le prix d'un, les Forbans. Vous avez la face A, la face B. C'est un 33 tours qu'on vous envoie, qui date du 20 décembre 1990. Collector de la discothèque RMC, Christophe.
Merci beaucoup, un gros bisou à vous deux.
Et bisous, bah, Christophe. Énorme bis, Christophe. Merci d'avoir joué avec nous. Et on va poursuivre, bien sûr, jusqu'à 9h30. Tout doit disparaître ce matin. En attendant,
au revoir, merci 8h. Encore. Que la musique réveille tout ce qui est en nous. Sylvia, Patricia et Barbara, j'aimerais que ce soir vous soyez toutes là.
RMC, la matinale week-end.